Les jardinières.
C'est reparti pour un nouvel épisode des Jardinières, saison 2026. Avec vous, Mylène, bonjour.
Bonjour Noélie, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Ce matin, on a le plaisir de recevoir Claudine Miseret. Bonjour Claudine.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes herboriste à la microferme de La Rochette à Charmoille et ce matin, on va parler de ces plantes sauvages et comestibles qui poussent déjà un peu partout dans les jardins en ce moment.
Ce qu'on considère souvent comme des mauvaises herbes sont de réels petits trésors en bouche. Oh, ça va aller ce matin. C'est comme si j'avais déjà les petites fleurs dans la bouche. Bref, on vous en dit plus dans la suite des jardinières. Et pas du tout. On va recommencer. Allez-y, bah, Ali.
Claudine.
Enfin, c'est chou.
Un petit bruit de fond, Claudine, fin mars. Les jardiniers en herbe trépignaille ont envie de passer aux choses sérieuses, mais il n'est pas forcément bon de se précipiter non plus. Alors, qu'est-ce que vous conseillez de faire dans son potager en ce moment?
Alors, évidemment, on peut commencer le désherbage, malheureusement. Et justement pour préparer les plates-bandes en fait, parce que il fait encore frais, mais si on veut que la terre se réchauffe, si on a couvert les plates-bandes avec de la paille par exemple ou n'importe quoi, on peut commencer à les préparer. Et puis ça va permettre justement à la terre de se réchauffer. Et on peut encore planter les vivaces par exemple si on a des aromatiques vivaces ou d'autres vivaces. Et on peut bien sûr commencer à faire ses plantons et semer, mais comme il y a encore des gros coups de froid ce matin, il faisait moins 2 par chez moi, ça vaut la peine seulement si on a de quoi les protéger avec des voiles par exemple ou quelque chose qui va éviter qu'elles gèlent.
Merci beaucoup Claudine, vous restez avec nous jusqu'à 8h dans la deuxième partie de notre émission. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs. L'occasion pour nous de vous rappeler les 3 moyens pour nous joindre. Tout d'abord par formulaire que vous trouverez sur notre site ou alors par téléphone au 0900 70 20 20 ou alors vous pouvez nous écrire un SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Et juste après la musique, on parlera d'un point essentiel quand on cueille des plantes sauvages, même au jardin, les précautions à prendre pour récolter sans risque et ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Bienvenue dans Les Jardinières.
Les Jardinières.
Nous sommes en compagnie de Claudine Miseret, experte en plantes aromatiques et médicinales à Charmoille. Les plantes sauvages comestibles, c'est le sujet qui nous occupe ce matin chez les jardinières, ces fameuses plantes qu'on retrouve un peu partout dans notre jardin.
Claudine, avant de parler cueillette, cuisine et recettes, il y a un point important à aborder, la sécurité. Alors quels sont les principaux risques sanitaires auxquels il faut penser ?
Alors là, c'est vrai qu'on va partir en balade dans notre propre jardin, mais il y a quand même des risques quand on récolte des plantes sauvages, même dans un jardin. Et le premier, c'est évidemment de récolter quelque chose qui serait toxique, parce qu'il peut tout à fait y avoir des plantes toxiques dans votre jardin. Alors là, je recommande de récolter uniquement ce qu'on connaît. En cas de doute, vraiment laisser la plante. Et puis, c'est vrai que quand on est herboriste en herbe, ça vaut la peine d'utiliser des ouvrages de référence ou même des applications. Hein. Maintenant, les applications sont quand même assez efficaces. Et il y a un site internet suisse qui est vraiment très très bien documenté, qui s'appelle infoflora.ch. Et sur ce site-là, on va trouver vraiment des fiches par plante qui vont nous renseigner sur les caractéristiques d'identification. Et ensuite, on pourra se renseigner est-ce que c'est bien du pissenlit, est-ce que c'est bien de la bourse à pasteur, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier risque. Ensuite, même dans un jardin, de nouveau, on peut par inadvertance récolter des plantes qui seraient souillées. Et le risque par rapport à ces plantes souillées, ce sont les parasites, en fait. Hein. On parle souvent de la maladie du pipi de renard, qui en fait est transmise par le caca de renard. Et pas seulement du renard d'ailleurs, parce que ça vient des excréments, des carnivores en général. Donc ça peut aussi venir d'un caca de chien, d'un caca de chat, de salive, etc. Donc évidemment, la première règle, c'est de récolter des plantes qui sont propres. Sachant que le fait de mettre du vinaigre, souvent on entend ça, il faut mettre du vinaigre, il faut mettre du bicarbonate, ça ne les détruit pas forcément, ces œufs de parasites. Donc dans ce cas-là, on va récolter des plantes qui sont propres et on va bien les nettoyer si on prévoit de les manger crues. Et si on prévoit de les cuire, là c'est un peu moins risqué dans le sens où les parasites ne résistent pas à la cuisson. Donc voilà quelques règles sans devenir paranoïaque pour éviter les risques liés à la récolte sauvage, même au jardin.
Voilà, maintenant qu'on sait réduire un peu les risques, on va regarder sa pelouse de plus près. On peut trouver toute une petite diversité de plantes dans nos jardins. On va commencer par peut-être la plus connue, le pissenlit. Alors, quels sont les signes, Claudine, qui permettent de l'identifier facilement, ce pissenlit?
Alors, c'est vrai que quand c'est en fleurs, on reconnaît bien le pissenlit, hein, mais c'est vrai qu'on des fois, on pourrait se tromper avec le pissenlit, pas trop, mais quand il n'y a pas la fleur, dans ce cas-là, on va vraiment vérifier que c'est une belle rosette avec des feuilles bien dentelé, puisque le pissenlit s'appelle aussi dent de lion, c'est pas pour rien. Donc là, on va vraiment pouvoir le reconnaître facilement. Et l'utilité de le reconnaître avant floraison, c'est de l'utiliser en salade, parce que justement, une fois que le pissenlit a fleuri, les feuilles deviennent beaucoup plus coriaces et plus amères. Donc le meilleur moment pour manger une fameuse salade de dent de lion, eh ben, c'est avant floraison, quand la plante est encore jeune, donc de prendre vraiment les jeunes feuilles et de se faire une salade de pissenlit. Mais quand il y a les fleurs, c'est sympa aussi, parce qu'on peut faire de la gelée de pissenlit. Ça s'appelle la cramaillotte. Vous connaissez ça?
Oui.
Cramaillotte.
C'est très très long à faire, mais c'est très très bon.
C'est extrêmement long. Alors, ce qu'on appelle la cramaillotte, je crois que c'est sur Neuchâtel qu'on appelle ça comme ça. En fait, c'est le miel de pissenlit. C'est pas du tout du miel, c'est de la gelée de pissenlit, comme un sirop en fait. Donc là, on prend vraiment les fleurs de pissenlit. Dans le meilleur des cas, si on a la patience, il faut enlever le calice, donc la partie verte, on va garder que le jaune. Et il faut environ 500 grammes de fleurs de pissenlit sans le calice pour faire 1 litre de sirop avec 800 grammes de sucre et le jus d'un citron qu'on aura laissé macérer pendant une nuit comme les sirops habituels et qu'on aura fait rebouillir. Et ça, alors c'est long, mais ça vaut la peine parce que le pain d'épices à la cramaillotte, il n'y a rien de meilleur, je vous assure.
Et l'une nettement moins connue, mais tout aussi abondante, c'est le mouron des oiseaux, qu'on appelle aussi stellaire. Il pousse souvent au ras du sol et passe facilement inaperçu. Alors, comment le reconnaître sans se tromper?
Alors, la stellaire ou mouron des oiseaux pousse énormément dans les jardins parce qu'elle aime bien les terrains qui ont été un peu remués. Donc, elle forme des tapis assez étendus. Elle a des petites fleurs blanches en étoiles, avec 5 pétales qui sont très fendus. Donc on dirait qu'elle en a 10, mais en fait c'est 5 pétales. Et puis elle fait des tiges rampantes comme ça, avec des feuilles ovales. Et sur ces tiges, il y a une ligne d'un côté de petits poils qui se succèdent comme ça. Et à chaque entre-nœud, les petits poils changent de côté. Donc ça, c'est vraiment un signe distinctif, parce qu'il y a une autre plante qui s'appelle mouron rouge et qui est toxique à haute dose. Et le mouron rouge n'a pas les petits poils. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile à reconnaître. Et l'avantage de ce mouron des oiseaux, c'est qu'il a un goût un peu terreux, mais assez doux. Donc ça va très très bien pour les salades ou en légumes cuits. Et en plus, c'est joli parce qu'il y a ces petites fleurs blanches.
7h, 8h, les jardinières.
Et chez les jardinières ce matin, on parle des plantes sauvages comestibles avec Claudine Miseret. Et on va continuer un autre petit parcours dans notre jardin avec une nouvelle plante, Mylène.
Oui, on a parlé pissenlit, mouron des oiseaux. On va passer à la pâquerette. Alors, elle est très familière, Claudine. Mais est-ce que toute la plante est comestible ou alors seulement certaines parties?
Eh bien, en fait, elle est toute comestible et l'avantage, c'est qu'elle est disponible presque toute l'année. Donc là, c'est vraiment une ressource au jardin qui est intéressante en plantes sauvages. Donc, on peut tout à fait manger les feuilles. Avant la floraison, de nouveau, elles seront beaucoup moins coriaces et plus douces. Et là, alors, de nouveau, pour agrémenter les salades, c'est parfait. Et puis, les fleurs sont comestibles, même si elles sont un peu amères. Elles font des super jolies décorations. Donc, ça vaut la peine de récolter nos petites pâquerettes.
Et dans les coins un peu ombragés ou humides, hein, on peut aussi trouver du lamier blanc ou du lierre terrestre. Ce sont des plantes que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, quels sont leurs signes distinctifs?
Alors, le lamier blanc, on l'appelle aussi fausse ortie, parce qu'elle ressemble vraiment à des orties, sauf qu'elle n'a pas les poils urticants. Donc, elle a vraiment des feuilles à s'y méprendre. On dirait vraiment de l'ortie. Et souvent, elle pousse au même endroit que l'ortie. Donc, si vous voyez une drôle d'ortie avec des jolies fleurs blanches, à peu près la même taille que les orties, mais sans les poils urticants, en général, c'est vraiment de la fausse ortie, donc du lamier blanc. Et cette plante-là, on peut utiliser aussi les fleurs en décoration, les grignoter comme ça, et les feuilles sont tout à fait comestibles aussi. Donc c'est vraiment une bonne plante sauvage. Et puis le lierre terrestre, par contre, lui, il est complètement différent. Il va vraiment faire des toutes petites feuilles qui poussent au ras du sol avec des jolies fleurs bleu violet comme ça. Et en fait, elle a un goût très très fort, une odeur très forte, aromatique. Et c'est pour ça que là, on va pas forcément l'utiliser en grande quantité. On va vraiment utiliser ces petites feuilles et ces petites fleurs pour aromatiser des plats ou bien faire des beurres, par exemple, aromatisés qui vont faire un effet waouh assez sympa.
Et puis, il y a encore des plantes, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de ces petites fleurs dans notre jardin, ouais. Comme la bourse à Pasteur, le plantain ou la pimprenelle, qui apparaissent un peu partout dans les jardins. Est-ce que ce sont des plantes faciles à reconnaître pour un débutant ?
Alors, l'avantage de la bourse à Pasteur, c'est qu'elle fait des rosettes, et quand elle est... Donc les feuilles font des rosettes et quand elle est en fleurs, en fait, elle se reconnaît assez bien parce que ces graines sont vraiment en forme de cœur. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça bourse à Pasteur, parce qu'au Moyen-Âge, les bourses, donc les pochettes, en fait, les sacs à main, si on veut, ils avaient cette forme de cœur. Et puis, elle a un goût de moutarde. Donc elle fait partie de la même famille que les choux, que la moutarde, etc. Donc si on voit une plante avec des petites graines en forme de cœur, elle n'est pas très grande, elle fait une dizaine de centimètres quand elle est jeune, après elle peut grandir un peu, mais pas très grande. Donc une plante avec des graines en forme de cœur et un goût de moutarde, on peut goûter un tout petit peu comme ça, c'est vraiment la bourse à Pasteur. Et là, elle va aussi très bien assaisonner les plats. Et puis la pimprenelle, elle fait des grandes rosettes de feuilles d'abord, tout à fait reconnaissables, parce qu'elles font une assez longue tige avec plein de folioles dentelées qui sont vraiment parallèles, donc qui vont se succéder comme ça, un peu comme sur une échelle. Et cette plante-là, elle a un goût de concombre. Mais vraiment, hein, vous pouvez faire un tzatziki avec du yaourt grec, de l'huile d'olive et de la pimprenelle, ce sera un peu plus amer que le concombre, mais ça a vraiment le goût de concombre. Donc là aussi, ça se reconnaît assez facilement. Et puis, le plantain aussi est très reconnaissable parce que les feuilles sont vraiment allongées comme ça. Il y a le plantain majeur qui a des feuilles assez larges, on va dire, et le plantain lancéolé qui est beaucoup plus long. Mais l'avantage, c'est que les deux, qui sont tout à fait comestibles, ont des nervures en fait qui vont depuis vraiment la base de la feuille jusque tout en haut, et si on tire la feuille, on voit les nervures qui sortent un peu comme des fils. Donc ça, c'est le plantain. Et les petites fleurs à l'état jaune qui ressemblent à des petites boules noires comme ça ont un goût de champignon de Paris. La même chose, si vous faites goûter ça à l'aveugle à quelqu'un, il vous dit c'est du champignon de Paris, quoi.
Les jardinières.
Vous êtes bien chez Les Jardinières, toujours avec Claudine Miseret, herboriste à la microferme de La Rochette à Charmoille. Ce matin, on parle des plantes sauvages et comestibles du jardin. Toutes ces explications seront à retrouver en podcast dans la matinée sur notre site. Mais on a encore quelques questions pour vous, Claudine, avant d'ouvrir le chapitre dédié à celles de nos auditeurs.
Pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 et vous parlerez en direct avec Claudine. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question via le formulaire disponible sur notre site ou alors un SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Alors Claudine, dans la première partie d'émission, on a parlé des pâquerettes, des pissenlits ou encore du mouron des oiseaux. On va maintenant partir sur les violettes hein, qu'on voit aussi apparaître, tout comme les primevères. Alors est-ce que les fleurs peuvent aussi être utilisées en cuisine ?
Ah bah oui, hein, les violettes, c'est vrai qu'on connaît bien les violettes, mais... En fait, il y en a deux sortes de violettes. Il y en a une qui est la violette odorante, et c'est celle-là qu'on veut. C'est-à-dire qu'elle est odorante, donc elle a vraiment une odeur tout à fait caractéristique de violette. Et en fait, on peut récolter les fleurs et utiliser ces fleurs crues. Le problème, c'est que si on les cuit, elles perdent leur odeur. Donc tout ce que vous trouvez à la violette, en général, c'est des arômes de violette, parce que l'odeur se perd, le goût se perd à la cuisson. Donc là, on va plutôt les utiliser en voilà, soit moulu si vous voulez en sorte de pesto, en sorte de pâte en fait, pour aromatiser quelque chose, ou bien on va faire des fleurs cristallisées, et puis on va pouvoir colorer par contre des préparations avec ces violettes, et ça va donner vraiment un très joli rose violet comme ça. Donc les violettes tout à fait utilisables, laxatives à haute dose quand même, mais bon, ça va, vous n'allez pas vous faire non plus des plâtrées de violettes, parce qu'il faut y aller pour récolter beaucoup de violettes, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais franchement, il faut de la patience. Et puis, quant aux primes verts, on connaît les variétés cultivées dans les jardins, des grosses fleurs jaunes ou violettes ou roses, ou voilà, plein de couleurs différentes. C'est une variété de primes verts, mais c'est vraiment la prime verte cultivée. Et les primes verts qu'on trouve en sauvage aussi dans votre jardin, hein, peut-être, ce sont les primes verts élevées, donc celles qui fleurissent maintenant. Elles sont tout à fait comestibles aussi. Elles décorent parfaitement les salades, elles sont très bonnes en tisane. Et par contre, le graal de la prime verte, c'est la prime verte officinale qui va pousser un petit peu plus tard, enfin qui va fleurir un petit peu plus tard dans la saison et qui a vraiment une odeur de printemps. Vous prenez les fleurs comme ça et vous avez envie de vous baigner dedans tellement ça sent bon. Vraiment cette odeur de printemps, et celle-là, elle se conserve au séchage. Donc ça va vous donner des préparations tout à fait intéressantes en cru et en sec avec ces primes verts officinales qui se reconnaissent donc à l'odeur, et aussi parce qu'elles ont des taches oranges dans les fleurs que les autres primes verts n'ont pas.
Merci Claudine. Voilà, maintenant on connaît cette longue liste de fleurs qu'on a pu découvrir.
C'est
quand même une petite sélection. Mais maintenant on a envie de les manger, ces fleurs. Alors le premier plat qui nous vient en tête, c'est en salade. Est-ce que certaines plantes sauvages de printemps sont particulièrement adaptées à être mangées crues? Bah là, vous venez de nous parler de la prime verte officinale, c'est juste?
Ah ouais, bah toutes les primes vertes, mais c'est vrai que la meilleure, c'est officinale.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont adaptées à être mangées crues, qui sont très très bonnes comme ça?
Alors là, toutes celles qu'on a abordées peuvent être mangées crues, donc autant le plantain que le lamier, etc., etc. Mais c'est vrai que en salade, le mouron des oiseaux, c'est vraiment, disons que c'est vraiment la salade de printemps avec du pissenlit, c'est parfait. Mais vraiment, toutes pourront être mangées crues. Et c'est vraiment qu'une question de goût, en fait, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas cette plante. Et avec une petite vinaigrette, même le goût un petit peu âpre de certaines plantes sauvages se marie très bien avec l'assaisonnement. Donc voilà, ça vaut la peine de se faire des petites salades crues du printemps, pleines de vitamines.
Et certaines peuvent aussi se cuisiner, hein, de ces plantes. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner?
Alors là, la même chose, c'est qu'on pense souvent que aux salades, mais en fait, toutes ces plantes peuvent aussi se cuisiner. Donc, on peut, disons, tout ce qui est grand, tout ce qui a des grandes feuilles, par exemple, l'amier, je vous disais, ça ressemble beaucoup à de l'ortie, donc les feuilles sont quand même assez grandes. Et ça va être une plante qui va tout à fait se prêter à une soupe, une poêlée avec un peu d'ail, par exemple, et du sel, à des pestos, etc. Et en fait, quand vous imaginez, tiens, là, je mettrais bien des épinards, eh ben, vous pouvez tout à fait mettre des plantes sauvages à la place. Et la même chose, les pissenlits, on pense à la salade de pissenlit, mais en fait, le pissenlit en légumes cuits est très bon.
On va tester ça tout bientôt. On va parler des fleurs à nouveau, Claudine. Violette, pâquerette, prime vert. Alors, on peut décorer des gâteaux avec des salades, mais vous avez quelques idées pour des préparations plus originales.
Alors, je vous ai parlé avant des violettes et des violettes au sucre. Alors là, c'est vraiment de l'artisanat, hein, parce que quelque chose qui va vraiment épater la galerie, si vous avez envie de faire ça, c'est vraiment de faire des violettes et des primes verts, par exemple, au sucre. Donc, vous prenez vos fleurs fraîches, toutes belles, vraiment les plus belles, quoi. Et ensuite, vous prenez du blanc d'œuf, un petit pinceau. Vous mettez le blanc d'œuf sur les fleurs et ensuite vous les trempez dans du sucre vanillé, moulu, comme ça va vraiment faire une fine poudre. Vous les trempez bien comme ça et vous les mettez à déshydrater ou à sécher. Donc si vous avez un déshydrateur, c'est parfait. Sinon, vous les mettez un petit moment dans le four à basse température et ça va vraiment les sécher. Et ces fleurs se gardent voilà, quelques semaines dans un bocal et sur un dessert. Mais alors, c'est vraiment... Là, ça, je vous dis, vous épatez la galerie, quoi. Mais il faut de la patience.
La patience est la mère des vertus. On se retrouve justement après un peu de musique. Hein. On va découvrir avec vous, Claudine, encore d'autres astuces pour utiliser ces plantes sauvages.
7h, 8h, les jardinières.
Tous les samedis entre 7h et 8h, vous écoutez les jardinières. Ce matin, nous sommes en compagnie de Claudine Miseret, spécialiste en plantes sauvages. On parle fleurs ce matin. Elle nous a d'abord fait découvrir celles qu'on trouve dans notre jardin. On est en train de vous glisser quelques petites recettes avec ces fleurs. Alors là, on vient de parler de fleurs en sucre. C'est super, mais prenez le temps de le faire. C'est la patience, on a dit. Et puis, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres recettes.
Et oui, on va partir sur les tisanes. Certaines de ces plantes peuvent aussi être utilisées en tisane. Alors, lesquelles sont les plus intéressantes selon vous, Claudine ?
Bah, toutes, hein, évidemment. Non, mais en vrai, c'est vrai que le printemps, c'est une bonne période pour récolter toutes les... Bah, par exemple, ce qui est en fleurs maintenant, hein, on parlait des primevères, donc les primevères, elles vont plus être disponibles en été. Donc, si vous voulez faire de la tisane de primevères, c'est maintenant et pas un autre moment. Et il y a aussi certaines feuilles qu'on va récolter pour les tisanes, pour lesquelles c'est vraiment maintenant le moment le plus propice, parce que justement, elles vont avoir un goût moins prononcé, plus doux. Et ou bien elles auront vraiment un maximum de propriétés. Par exemple, les orties, c'est vrai qu'il y en a presque toute l'année, hein. Et les orties, maintenant, elles sont toutes petites, mais alors elles sont super fortes. Si vous voulez vous faire des pestos d'orties, par exemple, c'est le moment. Vous aurez vraiment quelque chose de bourré de vitamines, de minéraux, etc. Et aussi pour les tisanes, vous pouvez déjà commencer à récolter les feuilles d'orties pour vos tisanes. Mais la même chose, le plantain qui est très, très... très apaisant pour les voies respiratoires et anti-allergiques, bah, va être récolté aussi maintenant, juste avant la période des pollens, donc c'est parfait. Et voilà, donc toutes ces plantes, vous allez les récolter, vous allez les mettre sécher sur une plaque à gâteau, par exemple, dans un endroit bien ventilé, et votre cuisine, par exemple, si ça s'y prête. Et dès qu'elles sont craquantes, en fait, vous pouvez tout à fait les utiliser en tisane, les stocker dans un sachet, et puis les garder pour toute l'année.
Et on va terminer cette partie sur les plantes sauvages. Parler un petit peu des légumes quand même, qu'on a peut-être un peu oublié dans nos jardins pendant l'hiver ou qu'on n'a pas pensé à récolter et qui sont montés en fleurs. Du coup, est-ce que ces fleurs-là, de nos légumes, on peut aussi les manger ?
Et oui, et en fait, c'est délicieux. Je pense par exemple au, nous au jardin, parce qu'on a aussi oublié des légumes au jardin. Il y a des pak choy, par exemple, donc des choux. Qui montent en fleurs et qui donnent des fleurs jaunes qui ressemblent au colza. Et ces fleurs sont délicieuses, elles ont un goût un peu sucré parce qu'il y a le nectar des fleurs. Et en même temps, elles sont aromatiques parce que c'est de la famille des choux donc, et de la moutarde, etc. Donc elles ont vraiment ce goût assez piquant comme ça. Et c'est la même chose pour si vous avez des kohlraves qui sont montés en fleurs. Vous pouvez tout à fait manger les fleurs, c'est vraiment bon, autant cru que cuit. Et... avec les légumes qui sont un peu restés au jardin comme ça, qui sont devenus trop vieux, entre guillemets, par exemple des choux de Bruxelles, vous avez des vieux choux de Bruxelles qui se sont ouverts, et ben vous pouvez tout à fait utiliser ces choux pour faire de la choucroute, par exemple. Ça va être très, très bon. Ou les salades, même si vous avez des anciennes salades qui sont un peu restées là, vous ne savez pas trop comment elles ont survécu, en fait, à cette période de l'année, soit elles sont très douces, elles peuvent tout à fait manger quand même, soit vous attendez encore un peu, et en général, elles vont devenir très douces. Donc ça vaut la peine de laisser vos vieux légumes pour manger les fleurs et les utiliser autrement jusqu'à la prochaine saison en fait.
Les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, on s'est amusé avec ce qui se trouve juste sous nos pieds. On a appris à reconnaître les plantes sauvages du moment et à les cuisiner. Merci Claudine pour toutes ces explications.
Et puis Claudine, avant de vous laisser partir, dites-nous, vous en avez une préférée de ces plantes sauvages ?
Bah alors elles sont toutes incroyables, hein. C'est dur d'en choisir une.
Vous n'avez pas le choix.
Ah ok, alors si je dois en choisir une, alors ce sera la primevère officinale, parce que je vous ai dit qu'on pouvait se baigner dans son odeur, donc c'est vrai, je récolte des poignées de primevère comme ça, et je les mets vers mon nez, et je les sens pendant des heures et j'adore ça, donc c'est vraiment la primevère officinale, et qui est bonne aussi, elle a vraiment bon goût. Mais c'est vrai que toutes les plantes en fait sont précieuses et en même temps elles sont gratuites, hein. C'est vraiment une ressource sauvage qu'on a dans nos jardins, on marche dessus et on s'en rend même pas compte, alors qu'on peut tout à fait les manger, en faire des tisanes et des fleurs au sucre avec des effets waouh. Donc voilà, c'est vraiment un petit trésor. Et en ce moment, bah voilà, pas forcément dans votre jardin, mais en forêt, il y a aussi l'ail des ours par exemple, il y a l'aspérule odorante qui va bientôt commencer, et tout un tas d'autres plantes sauvages qu'on peut tout à fait manger, et même les feuilles des arbres, les jeunes feuilles des arbres, par exemple les jeunes feuilles de tilleul en salade, c'est très très bon, et on n'y pense pas forcément, mais ça se mange très bien.
Alors l'ail des ours, on connaît, on en a même déjà parlé assez souvent chez les jardinières, mais là vous avez parlé de l'aspérule. Vite fait, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, aspérule odorante, c'est une plante de la famille des gaillets. Donc les gaillets, c'est ces plantes qui, vous savez, qui font des petites boules et qui se collent partout là. Donc ça, c'est les gaillets. Et aspérule odorante est une petite plante qu'on trouve vraiment dans les sous-bois, en particulier dans les hêtraies. C'est vraiment son milieu de prédilection. Et elle fait des tiges, des longues tiges graciles avec des verticilles, comme on appelle, donc des rosettes de feuilles, comme ça, réparties sur la tige, et des petites fleurs qui ressemblent à des petites étoiles, comme ça, des petites fleurs blanches. Et en fait, cette aspérule, une fois qu'on la récolte, on doit la mettre sécher parce qu'elle n'a aucune odeur crue, ou quasiment pas d'odeur, mais séchée, elle développe une odeur très agréable de vanille très douce qui peut être tout à fait utilisée en cuisine pour aromatiser des laits, des crèmes, des gâteaux, etc. Et aussi en tisane. Mais il faut que ce soit sec parce que frais, ça n'a pas d'odeur.
Merci
beaucoup. C'est magique, hein.
Claudine, c'est magique. On rappelle que vous êtes herboriste à la microferme de La Rochette à Charmoy. Très bon week-end à vous et à bientôt chez les jardinières.
Merci beaucoup. Merci, bon week-end.
Merci Claudine. On se donne rendez-vous samedi prochain dès 7h pour une nouvelle émission des jardinières. Et nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. D'ici là, on attend vos questions. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Et bon début de printemps.
7h, 8h. Les jardinières.